Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité d'un vilain défaut.
Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Son unique ambition se bornait au royaume évanescent des senteurs.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je crée un parfum.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Deux extraits de pub, un extrait de ce film et de cette histoire incroyable, Le Parfum, dont on reparlera plus tard. Je sais que c'est un film, une histoire que Thomas Hugues a absolument adoré.
Oui, surtout le roman de Patrick Suskin qui a initié le film. On en parlera sûrement avec notre invité.
Avec notre invité, Charlotte Urbain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez la communication du groupe Fragonard et vous êtes l'une des coordinatrices d'un nouveau musée. C'est le musée du parfum Fragonard, enfin nouveau. Il y avait déjà un musée du parfum.
Tout à fait.
Mais vous recommencez tout, c'est ça ?
Non, pas du tout. Non, non. On continue. La maison
vous
Fragonard.
Vous agrandissez ?
Ouais, exactement. La maison Fragonard est une maison qui se développe depuis 1926, puisque c'est sa date officielle de naissance. Date à laquelle la famille qui dirige aujourd'hui l'entreprise a repris une ancienne parfumerie grassoise et l'a fait aujourd'hui développer à tel point que, bon, ben voilà. On ouvre en fait un quatrième musée du parfum, puisqu'on a ouvert notre premier musée du parfum en 1975 à Grasse, et c'est le père des trois dirigeantes actuelles, donc les trois sœurs Costa, qui a, par le biais de collections, c'était un passionné d'art et un passionné notamment d'objets d'art de parfumerie, et c'est un des premiers à avoir eu un intérêt très prononcé pour les objets d'art de parfumerie en tant que par son métier, hein, forcément, et donc il a, dès les années 50, collectionné des objets d'art de l'Antiquité à nos jours.
C'est ce qu'on découvre dans ce musée du parfum Fragonard. C'est vrai que le parfum, pour nous, ce sont des effluves, c'est une odeur, c'est presque immatériel, mais ce sont aussi des objets.
Tout à fait.
Qui raconte l'histoire du parfum.
Et des objets qui sont absolument incroyables, parce qu'en réalité, le parfum, il a plusieurs états. Il est sous l'état liquide, solide et vaporeux. On le connaît, nous, aujourd'hui, au XXe siècle, le parfum, il signifie parfum, flacon, voilà.
C'est liquide,
c'est
forcément.
C'est liquide, c'est quelque chose qu'on fait splitch-splitch le matin.
Ça fait ce bruit-là, votre parfum, Charles.
Splitch-splitch, je sais pas.
Splitch-splitch. Voilà, moi, je fais bien le parfum.
Mais c'est votre déo, ça.
Oui, oui. Non, non, je n'utilise pas un déo comme ça. Mais surtout, c'est sensuel. C'est glamour,
sensuel,
c'est tout
sûr.
Ça le parfum.
Mais l'odorat, c'est très sensuel. Justement, vous parliez du film, du livre, Le Parfum de Suskin. On est complètement dans la sensualité, dans l'animalité. Enfin, le parfum, c'est tout ça à la fois. Et finalement, l'odorat, c'est le nouveau-né. La première chose qu'il reconnaît, c'est l'odeur de sa mère, c'est l'odeur du lait maternel. C'est quelque chose qui est intrinsèque à nous. C'est un de nos cinq sens et un des sens les plus développés d'ailleurs.
Depuis quand on se parfume dans l'histoire de l'homme, Charlotte Urbain ?
Depuis toujours. En fait, depuis... On dit qu'on se parfume depuis le néolithique. Alors, on imagine mal les
imprises. Avec quelques graines écrasées.
Mais en réalité, ils se frottaient avec des herbes pour contrer leurs proies. Enfin, pour les éloigner, se dissimuler et les attraper. Enfin, on ne sait pas exactement. Hein, tout ça est souvent très mythologique également. Mais on suppose que finalement, le parfum étant... déduit de nos cinq sens. Vous, quand vous vous promenez dans la forêt ou dans la garrigue, que vous sentez des fleurs, que vous frottez des plantes dans vos mains, vous parfumez les mains. Je veux dire, de la lavande qu'on va frotter entre deux mains, après vos mains, elles sentent la lavande.
Je crois que ça me ramène dans la Drôme, ça. Il y a quelques jours, paf, tout de suite,
j'ai l'odeur. Vous êtes parfumé dans la nature.
J'ai l'odeur de lavande qui revient. Ça vient d'où le mot parfum ?
Parce qu'on adore les étymologies dans la curiosité.
Voilà.
Alors, pour faire le scientifique, le parfum, ça vient du latin perfumum, qui signifie par la fumée. Donc, il y a un des premiers emplois du parfum qu'on va retrouver à l'Égypte, enfin l'Égypte ancienne, par exemple, où on va en fait se lier avec l'au-delà, avec les dieux, par le biais de la fumée et par le biais de la fumée parfumée. L'encens, les résines, toutes sortes de résines qu'on va mettre à brûler et qui forment une fumée odorante. Et dans l'esprit de ces civilisations-là, on avait un lien avec les dieux, avec l'au-delà, par cette fumée.
Ça veut dire que... Oui.
Est-ce qu'on a une idée des premiers parfums, mais au sens parfum fabriqué, travaillé par l'homme. Qu'est-ce qu'il sentait ? Est-ce qu'on le sait, ça ?
Oui, on a, y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Et on a retrouvé, alors déjà, rien que nous, par exemple, au musée, on présente un certain nombre d'objets anciens. Les plus anciens objets ont moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça signifie quand même qu'on avait aussi la possibilité de rechercher ce qu'il y avait, les résidus, des choses comme ça. On sait que les Égyptiens utilisaient des parfums, alors sous toutes ces formes, mais ils avaient beaucoup d'huiles parfumées, d'onguents, d'encens, et souvent ces odeurs étaient. Il y a un parfum qui est un peu mythique, qui dit que c'est un parfum deux fois bon, et en fait il est composé d'aromates, mais surtout d'épices. Donc il y a de la cannelle, il y a de la cardamome, il y a des résines. Donc c'est des parfums qui sont assez sucrés, assez forts, assez intenses.
C'est incroyable, Charlotte Urbain. Ça veut dire que dans votre musée Fragonard du parfum, on peut découvrir des récipients qui contenaient donc du parfum, et à l'intérieur de ces récipients restaient quelques traces de parfum que des biologistes, j'imagine, ont réussi à
analyser. Tout à fait.
Est-ce qu'on peut les sentir, ces parfums, dans votre musée ?
Alors, moi, j'ai eu la chance, parce qu'aujourd'hui, ces flacons sont derrière des vitrines, on ne peut pas les mettre en accès libre, évidemment, mais j'ai eu la chance d'avoir accès à ces objets magnifiques, et on parlera peut-être plus tard des pommendaires, et dans certains pommendaires...
C'est quoi un pommendaire ?
Alors, un pommendaire, c'est un objet qui, si on veut faire de l'étymologie également, c'est a priori qui part de pomme d'ambre. Donc, pourquoi une pomme ? Parce qu'en fait, c'est un objet qui est rond et qui s'ouvre en quartier. Je fais plein de gestes avec mes mains.
Mais on imagine bien
la scène. Nous avons rtl.fr où on peut vous voir en direct faire les gestes. Donc c'est parfait.
Et on a bien visualisé, c'est parfait.
Et donc c'est une pomme qui s'ouvre en quartier, et dans chaque quartier étaient glissées des matières odorantes différentes. Ce sont des objets plutôt de l'époque du Moyen-Âge. Donc peut-être que je saute un peu vite la chronologie, mais voilà.
3000 ans d'histoire, c'est normal. On a le droit de faire des sauts.
Mais du coup, on a certains objets en l'occurrence parmi nos collections où il y a des résidus des matières odorantes qui étaient de l'époque.
On va vous raconter dans un instant, dans la curiosité, comment on est passé de l'utilisation du parfum pour les cérémonies religieuses à une utilisation plus intime, personnelle, glamour. La suite de la saga du parfum, c'est tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
L'histoire du parfum avec ses objets, son utilisation, c'est le voyage olfactif que nous vous proposons ce soir dans la curiosité avec notre invitée Charlotte Urbain qui participe à la coordination, c'est ça, du musée
Tout
du
à
parfum
fait.
À Paris, qui vous séporte dans ?
Alors, qui vous séporte officiellement le 12 septembre et qui est situé à 2 minutes de l'Opéra Garnier.
Voilà, ce sont les Grecs qui font passer le parfum du domaine du sacré à celui du corps, c'est ça ?
Oui, alors il faut quand même spécifier que les Égyptiens l'utilisaient déjà pour les femmes égyptiennes s'enduisaient le corps d'huile parfumée. On connaît Cléopâtre, qui est peut-être l'une des plus belles représentantes
l'égérie des premiers parfums.
Tout à fait. S'il y avait eu des marques à l'époque, elle aurait été sur les pubs, mais voilà. Et on raconte très jolie légende qu'elle partait, quand elle partait à la rencontre de Marc-Antoine, elle enduisait les voiles de son bateau de jasmin. Voilà. Donc elle n'avait aucune restriction sur le nombre de litres de parfum.
Vous pourriez peut-être faire ça avec
quand
votre pare-brise de voiture,
quand
Thomas.
Quand on est reine, on ne se refuse rien. Qu'est-ce que vous dites ?
Vous pourriez peut-être enduire votre pare-brise de voiture pour faire plaisir à votre douce, je ne sais pas, moi.
Bien sûr.
Essayez de transposer
très bonne
l'histoire.
Idée. Autre proposition, Sidonie Bonnec ?
Non.
Parce que celle-là était pas mal, quand même. Donc, alors, vous nous expliquez...
Mais on utilise, chez les Grecs.
Chez les Grecs, parce que là, moi, je suis perdu. Je suis perdu. Les Égyptiens, c'était pour les rites religieux, c'est
mais
ça
pas que.
Mais pas
voilà.
que,
mais pas
puisque
que.
Cléopâtre. Et les Grecs, ça
les
se
Grecs, en fait, ça
démocratise
ça
le parfum
se démocratise. Alors, en fait, c'est surtout qu'on connaît l'amour des Grecs pour leur corps, le culte qu'ils avaient pour leur corps, avec tous les sports, l'athlétisme qui se sont mis en place, et les bains. Ils vont utiliser le parfum pour embellir leur corps. Donc c'est le début en fait, on va dire enfin c'est même pas exact de dire c'est le début parce que le parfum a toujours eu un lien avec la séduction, avec la beauté, le maquillage, c'est quelque chose qui est très lié.
Donc c'est logique.
Logique.
Est-ce que le parfum aussi a un rapport avec la médecine, la santé?
Tout à fait. Ça va évoluer, on va le voir d'ailleurs au cours des siècles, surtout avec le Moyen Âge où finalement apothicaire et parfumeur sont deux métiers assez poreux et qui vont avoir beaucoup de liens entre eux.
Ça ne veut pas dire qu'on les consommait, les parfums ?
Eh bien, si, en fait,
ah
ouais. Si.
Ah bon ?
Alors, en fait, on les consommait pas comme on consommerait un parfum aujourd'hui. Je vous demande pas de faire comme les Russes à l'époque soviétique et de boire de l'eau de Cologne. Mais l'idée, c'est que en fait, au Moyen Âge, ils vont considérer que le parfum, il faut aussi se parfumer pour éloigner les mauvais esprits, les épidémies, les maladies, mais il faut aussi le faire de l'intérieur. Et apothicaires, parfumeurs travaillent ensemble, ou sont les mêmes d'ailleurs, et conçoivent des breuvages qui sont ingérés par les gens.
Oui. Par les gens, par les femmes ou par les hommes, les femmes ou les hommes? Indifféremment.
Oui. Alors ça, je ne crois pas qu'il y ait de différence particulière. Il y a une très belle représentation de Velázquez de l'infante avec sur lui des pomandères dont je vous parlais juste avant, qui sont accrochés à sa ceinture, à son cou, à sa main. Et dans ces pomandères, il y avait des odeurs qui permettaient en fait d'éloigner les mauvais esprits, les maladies, les épidémies. C'était l'époque où l'époque de la Renaissance, c'est une époque où ils ont peur de l'eau, ils veulent plus se laver. Du coup, ils utilisent les parfums pour se prémunir de toutes ces maladies.
Mais Charlotte Urbain, est-ce qu'il y a eu des périodes où les parfums étaient interdits?
Par ma connaissance.
Par la religion, par...
Au Moyen-Âge, on interdisait l'utilisation, justement, profane. C'est-à-dire que, parce que quand même, dans les églises, ils continuaient à utiliser le parfum, l'encens, et les moines, eux, utilisaient aussi beaucoup les herbes aromatiques. Ils détenaient, en fait, c'était dans les monastères qu'on avait toutes les connaissances sur les plantes, aussi bien d'un point de vue médicinal que d'un point de vue, justement, sur l'utilisation plus de parfumerie, mais ensuite ça va évoluer assez rapidement et à partir de la Renaissance en fait l'utilisation reprend et après on va voir aussi qu'elle va retourner sur l'attribut beauté, séduction, etc.
Charlotte Urbain, j'imagine que au XVIe siècle les grands voyageurs comme Marco Polo qui ouvrent de nouveaux horizons, ça apporte un vent frais, ça enrichit l'univers du parfum.
En fait, il n'y a pas que Marco Polo, c'est l'époque aussi des croisades, c'est l'époque de la route des épices, toutes ces routes-là, les routes vers l'Orient, qui vont amener de nouvelles senteurs et qui vont apporter... On a dans notre imaginaire ces caravanes qui portaient l'encens, le myrrhe, le santal, qui venaient d'Asie, qui avaient le benjoin, enfin, toutes ces senteurs qu'on connaît encore aujourd'hui et qui vont arriver en Europe par le biais des nouvelles routes. Alors, les routes de Marco Polo, mais aussi les autres routes terrestres.
Mais ça veut dire que les capitales économiques du parfum, ce sont quoi ? Ce sont des ports ? Des villes portuaires ?
Tout à fait, tout à fait.
Lesquelles ?
Les arrivées, alors en Méditerranée, en Italie, toute la côte méditerranée est une région où convergent les marchandises venues d'Orient et d'ailleurs.
Venise a été une grande ville de parfum.
Après c'est tout des après ça va évoluer et puis Grasse qui est juste à côté, voilà, puisque en fait Grasse se trouve en quelques kilomètres de la mer Méditerranée et bénéficie d'un climat qui est très propice à de nombreuses plantes qui sont utilisées dans la parfumerie et donc qui va permettre l'essor de cette ville.
Vous parliez de la Renaissance et de la consommation du parfum, Charlotte Urbain. C'est une époque où on l'hygiène laisse un peu à désirer. Donc, par exemple, dans les cours royales, on s'asperge, c'est ça, de parfum pour masquer les mauvaises odeurs. Mais ça devait sentir quand même très, très particulièrement mauvais, non ?
Oui, je pense.
Le mélange.
je pense qu'on n'a pas, à mon avis, on a un odorat un peu plus fragile aujourd'hui qu'il l'était à l'époque et que des mauvaises odeurs, il devait y en avoir en permanence. Donc du coup, on utilisait aussi des odeurs très fortes pour masquer d'autres odeurs très fortes.
Donc quoi, le musc, l'ambre.
Oui, exactement, les matières animales, que la civette qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Et on s'aspergeait de partout. Complètement, voilà, on utilisait le parfum sous toutes ses formes et les plus puissants possibles.
Le parfum pour masquer les mauvaises odeurs, bon, ça fait pas trop rêver, mais aujourd'hui, le parfum, c'est l'un des fers de lance de l'industrie du luxe. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On vous raconte ça dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
On est bien entre curieux sur RTL. Sidonie Bonnet.
Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien.
Thomas Hugues.
Laisse le parfum se dissiper.
RTL.
Jusqu'à 22h.
Parfum de vanille. Amour qui pétille.
La curiosité est un vilain défaut.
Aujourd'hui, vous savez que plus de 1000 parfums sortent chaque année dans le monde. C'est quand même beaucoup. Comment le parfum est devenu ce produit de luxe, ce produit qui nous séduit, qui nous enchante, qui nous fait rêver. On raconte son histoire passionnante, une histoire longue de 3000 ans avec Charlotte Urbain, notre invitée qui a participé à la conception, à la coordination du musée du parfum de Paris. On va reprendre le fil de notre histoire parce qu'on raconte vraiment l'histoire du parfum. Catherine de Médicis, elle a un rôle très important dans cette histoire car elle revient d'Italie avec des gants parfumés.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est déjà ?
Catherine de Médicis, elle est de Florence. C'est une Italienne de Florence. Et donc, à l'époque, les personnes riches, enfin de la noblesse, portaient des gants. Ça signifie qu'ils travaillaient pas. Et seulement le cuir, quand il sent pas forcément bon, quand il est pas bien tanné, il sent pas très bon. Il peut sentir un peu fort. Et donc, il y avait cette mode en Italie de parfumer les cuirs. Elle ramène cette mode en France, qui prend instantanément et donc grâce, parce que quand même c'est pour nous c'est notre maison, c'est là que se trouve la maison mère de Fragonard, grâce à cette époque-là était une ville de tanneurs. Et grâce à Catherine de Médicis, qui apporte cette mode des gants parfumés, petit à petit, les tanneurs grassois deviennent des tanneurs parfumeurs. C'est très important parce qu'ensuite, ils vont abandonner la tannerie et ils vont finir par devenir uniquement parfumeurs.
Et Louis XIV crée une corporation des gantiers parfumeurs, c'est
ouais,
ça ?
Oui, tout
c'est
à fait. Alors, cette corporation, elle leur permettait aux gantiers parfumeurs grassois d'avoir un monopole sur la distribution des gants parfumés. Donc, évidemment, c'était très bénéfique pour la ville. Ça lui a permis de se développer. Il y a eu un essor important. Et à partir de là, on a commencé à cultiver les plantes à parfum, qui sont des plantes qu'on trouve, certaines qu'on ne trouve uniquement qu'à Grasse, qui sont par exemple le jasmin, un type de jasmin, Jasminum grandiflorum, et la rose de mai, Rosa centifolia, qui sont deux fleurs très utilisées en parfumerie, qui sont très appréciées par les parfumeurs, et qui sont uniquement cultivé dans la région de Grasse.
Pour
encore aujourd'hui.
Pour parfum, il faut être à la fois historienne, botaniste, linguiste, vous êtes tout ça à la fois, Charlotte Urbain. Pour continuer de parler de Louis XIV, il aimait les parfums ?
Oui, il avait un surnom, c'était le...
Roi le plus fleurant du monde.
Voilà, exactement.
C'était pas très positif, c'est ça ? Il sentait mauvais. Fleurant, ça veut dire quoi à l'époque ?
On peut l'imaginer dans tous les sens qu'on veut. Après, je vous laisse libre choix à l'imaginer, vous. Mais c'est vrai que c'est lui qui va aussi amener cette mode de parfumer. Et sous Louis XV, il y avait aussi c'est aussi un peu dans la mythologie, mais on disait qu'il fallait venir à la cour de Louis XV tous les jours avec un parfum, enfin parfumé différemment.
Ah oui, ouais. Quel challenge.
Oui, oui, c'est pas.
La fois, ils ne travaillaient pas, ils avaient le temps de chercher un parfum tous les jours. Non, mais c'est vrai.
Et surtout, ça faisait travailler les parfumeurs. Oui. C'était ça qui était bien.
Bien sûr, c'est important. Louis XIV, tiens, d'ailleurs, on en parlera lundi, ce sera l'un des thèmes de la curiosité.
On l'aime bien, ce Louis XIV.
Oui, puisqu'on va célébrer, alors là, j'ai plus la date en tête, mais le 300e, merci Gérald Chaland, anniversaire de la mort de Louis XIV.
Charlotte Urbain, le siècle des Lumières, c'est vraiment le siècle de la naissance de la parfumerie française. On n'importe plus pue les parfums d'Italie, on est parfumeur.
Non, on est parfumeur. Et alors, on peut dire aussi que c'est surtout le siècle où on commence à faire des parfums qui sont très différents. On va faire des parfums floraux, c'est-à-dire qu'avant on était sur des parfums un peu plus forts et
pour cacher un peu la puanteur,
trop capiteux, exactement. Et à partir du 18e, alors il y a un personnage qui est très important dans l'histoire de la parfumerie, c'est Jean-Marie Farina, qui est un Italien, et qui va inventer l'eau de Cologne au XVIIIe siècle. Et pourquoi elle s'appelle l'eau de Cologne ? Tout simplement parce qu'il s'installe, il prend une boutique à Cologne, dans laquelle il va vendre son eau de Cologne, qui est... Alors là, on est sur des senteurs complètement différentes. On est sur des choses très, très fraîches, des herbes aromatiques, des hespéridés, donc des citrus, etc. Et ça, c'est un changement important pour la parfumerie.
Mais pour comprendre comment le parfum est devenu un produit de luxe, mais grand public, qu'est-ce qui a accéléré le phénomène ? Je sais pas, déjà les progrès technologiques, la chimie, par exemple ?
L'industrialisation. Mmh. En fait, c'est plusieurs choses à la fois. Fin 19e, la chimie, les évolutions chimiques, on commence à aussi apprendre à faire des molécules de synthèse, des molécules de synthèse odorantes, donc on commence à bien maîtriser. Et parallèlement, on va industrialiser la fabrication des flacons, le flaconnage, l'étiquetage. Tout ça, ce sont des choses qui vont apparaître fin 19e, début 20e.
Le vaporisateur aussi.
Le vaporisateur qui apparaît fin 19e, tout à fait, exactement. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qui vont permettre à ce que aujourd'hui, le grand public...
Qui décide d'en faire des produits de luxe.
Tout à fait. Et le trio, alors pour moi, le trio qui est important et qui est un tournant important du 20e siècle, début 20e, c'est qu'on a, un nouveau produit qui naît autour d'un trio qui va être le parfumeur, le couturier et le verrier. Donc on connaît Lalique, Baccarat, donc pour les verreries, et pour les couturiers, bah on les connaît tous. Mais pour moi, le couturier qui va vraiment donner un élan là-dedans, c'est Paul Poiret avec les parfums de Rosine.
Et pour découvrir tous ces flaconnages et quelques-unes de ces effluves, le musée du parfum Fragonard qui ouvre le 12 septembre, il est gratuit pour tous.
Tout à fait, c'est une visite guidée et gratuite.
C'est une bonne nouvelle en ces temps difficiles.
Merci,
on vous
beaucoup
attend.
Charlotte Urbain. C'est la fin de notre curiosité. Vous pouvez nous réécouter en podcast évidemment sur rtl.fr.
Et nous faire découvrir à vos amis. Tout le monde ne nous connaît pas. Enfin, beaucoup de gens nous connaissent en France quand même, hein, et dans le monde. Mais...
Vous écoutez RTL.